Customers are rushing to your store. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. Shopify POS is your command center for your retail store. From accepting payments to managing inventory, Shopify has everything you need to sell in person. With Shopify, you get a powerhouse selling partner that effortlessly unites your in-person and online sales into the one source of truth. Track every sale across your business in one place and know exactly what's in stock. Connect with customers in line and online. Shopify helps you drive store traffic with plug-and-play tools built for marketing campaigns from TikTok to Instagram and beyond. Get hardware that fits your business. Take payments by smartphone, transform your tablet into a point-of-sale system, or use Shopify's POS Go mobile device for a battle-tested solution. Plus, Shopify's award-winning help is there to support your success every step of the way. Do retail right with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/theathletic, all lowercase. Go to shopify.com/theathletic to take your retail business to the next level today. shopify.com/theathletic.
And now, two pigeons bemoaning the fact you can stream DirecTV satellite-free.
You see this? A family watching baseball on DirecTV with no satellite dish in sight.
Let's heckle them.
You call that changing the channel?
Choke up on the remote, buddy.
I hope getting all these games on DirecTV makes up for your mother not pre-chewing your sunflower seeds.
DirecTV has the most MLB games. Visit DirecTV.com. Claim based on total games offered on national and regional sports networks with choice package or higher. Availability of RSNs varies by zip code and package. High-speed internet service required. Terms and restrictions apply.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Sport Athlétique, votre podcast sur le Canadien Montréal par athlétique.com. C'est Marc-Antoine Godin au micro en compagnie de Arpin Basu en ce vendredi 9 décembre. Bonjour Arpin.
Salut Marc-Antoine.
Écoute, tu as eu un long voyage dans l'Ouest canadien. Tu es content de revenir à Brossard, à Montréal, dans l'environnement douillet du Canadien à domicile?
Oui, absolument. Ben, c'est toujours le fun d'aller dans l'Ouest. En fait, j'ai couvert un match dans les trois derniers arénas, ou disons les trois dernières villes où j'ai jamais couvert un match de la Ligue nationale. J'ai visité Calgary et Edmonton et Vancouver, puis ouais. J'étais dans deux de ces trois édifices-là avant, mais en fait, c'est pas vrai. J'ai couvert des matchs de la Ligue nationale à Edmonton, mais c'était dans le bull. Ouais, c'était dans le bull, puis il n'y avait pas de foule, puis on n'était même pas dans la galerie de presse, alors ça, c'était différent. Puis à Vancouver, j'étais là pour le repêchage, mais jamais match de la Ligue nationale. Alors, c'était là, je suis 32 pour 32 en termes des villes de la Ligue nationale. Alors, ça, c'est cool, mais il y a eu des développements pendant ce voyage-là. Évidemment, on a commencé à Calgary, où Sean Monahan a eu son retour à Calgary, émotionnel. Il était très ému d'être là. Et de revisiter la ville où il est devenu un homme, dans le fond, où il est devenu un joueur de la Ligue nationale. Mais ce qui était pertinent, je ne vais pas dire que ça, c'était pas pertinent, mais ce qui était l'événement de ce match-là, en termes des nouvelles et en termes du Canadien en ce moment, c'est que Sean Monahan est arrivé à l'aréna ce soir-là avec une botte protectrice sur son pied droit. Il a quitté l'aréna avec ce même botte-là. Puis, au fur et à mesure que le voyage s'avançait, Sean Monahan était blessé. On peut présumer que c'est ça, son pied droit. Alors,
C'est ça. C'est rare que c'est le haut du corps et tu as une botte protectrice, mettons.
Ben, c'est ça. Alors, ce qui donne que, évidemment, à Seattle, il n'y avait pas beaucoup d'options en termes de ce que le Canadien pouvait faire parce qu'effectivement, avec David Savard qui manquait l'appel, Brendan Gallagher, Sean Monahan, il y avait 20 joueurs en santé. Alors, ils ont joué ces 20 joueurs-là à Seattle, ils ont allé avec 11 attaquants, 7 défenseurs, mais là, ça se peut qu'il y ait plus d'options pour le match de samedi. Alors, à l'entraînement aujourd'hui, on a abordé la question de Kirby Doc. Kirby Dach, évidemment, c'est un joueur de centre qui joue à l'aile depuis qu'il joue avec Nick Suzuki et Cole Caulfield. Ça va très bien. Mais ils ont joué avec trois joueurs de centre à Seattle. Ils ne seront pas obligés de faire ça. En fait, ils n'auraient pas été obligés de faire ça à Seattle non plus. Ils auraient pu mettre Kirby Dach au centre. Mais Martin Saint-Louis a reconnu que, oui, ça se peut qu'il remet Kirby Dach au centre. Il faut demander un paquet de questions là-dessus parce qu'effectivement, le premier trio du Canadien, c'est vraiment... C'est chaque entraîneur adverse qu'on demande la question, c'est quoi les détails, les points d'emphase que tu mets avec ton équipe contre le Canadien. Et ce premier trio-là, c'est le premier sujet à chaque fois. C'est, on ne peut pas laisser ce premier trio-là faire ce qu'ils veulent. Alors, toi, à ton avis, c'est quoi le mieux pour le Canadien? C'est de laisser Kirby Dach tourner au centre et avoir quatre joueurs de centre, une bonne ligne de centre, dans le fond, ou garder ce premier trio-là intact parce que c'est tellement important pour l'attaque du Canadien?
Moi, honnêtement, compte tenu de l'état actuel de la formation, parce qu'effectivement, non seulement Monahan n'est pas là, mais Gallagher, il n'y a pas de changement dans son état, puis on ne sait pas si Mike Hoffman et Jonathan Drouin vont être en mesure de revenir. Peut-être qu'ils vont revenir à court terme, ça c'est sûr. Il va y avoir beaucoup plus d'options pour trouver des alliés complémentaires à Caulfield et Suzuki, à mon sens, qu'il y en a de trouver un joueur de centre capable de remplacer Monahan. Alors, même si j'aime bien l'idée d'avoir Dach qui complète le trio de Suzuki et Caulfield, puis on en a déjà parlé, c'est manifeste que c'est un complément de qualité pour ces deux gars-là. Je pense qu'à l'heure actuelle, le Canadien a plus besoin de Dach comme joueur de centre. Et puis, tu sais, en écoutant Martin Saint-Louis, vendredi, tu dis, OK, il dit, on y pense, c'est des options, on va l'évaluer. Mais en même temps, il semble avoir fait une partie du chemin dans sa tête en disant que c'était important pour le Canadien de rebâtir sa confiance dès le début de la saison, lui permettre de se jouer dans ses forces. Puis il dit aujourd'hui, il dit maintenant, il dit en anglais, il a dit, on sent qu'he's in a good place now. Et qu'il a été en mesure de démontrer quel genre d'impact il peut avoir sur les matchs. Alors, partant de ça, je me dis, OK, je pense que autant Dach doit être content de voir doit être content d'avoir profité là, de l'espace dans le penthouse du Canadien en étant sur le trio de Caulfield et Suzuki. En même temps, il doit à quelque part se dire, ben là, je vais leur montrer que moi aussi, je suis capable d'être le moteur de mon trio puis d'être celui qui va. Tu sais, qui va mener la barque là, sur mon propre trio. Alors, je trouve que c'est intéressant parce que à chaque fois que un entraîneur peut procéder à un changement comme celui-là et ne pas faire le changement parce que les choses ne fonctionnent pas, mais au contraire de dire OK, je vais regarder à cause de la situation des blessés, puis prendre quelque chose qui marche, puis peut-être proposer quelque chose d'autre à mon joueur, je pense que c'est quand même un environnement qui est plus positif pour Dach, c'est une meilleure situation pour lui. Puis autant les choses ont bien marché avec Suzuki et Caulfield, autant j'ai l'impression que dans les cinq derniers matchs, même s'ils ont quand même été le trio le plus productif de l'équipe à 5 contre 5, il ne m'a pas semblé qu'ils ont été nécessairement aussi dangereux qu'ils l'avaient été un petit peu par le passé. Fait que, d'une part, Dach peut avoir la chance de retourner comme joueur de centre et ça pourrait donner la chance à un autre joueur, nommément, je pense spontanément à Juraj Slafkovský, d'être mis à l'essai aux côtés de Suzuki et Caulfield. Ça pourrait être, je pense, un match intéressant, surtout si jamais Mike Hoffman n'est pas prêt à revenir au jeu, qui lui a déjà été par le passé là, une solution pour Martin Saint-Louis dans ce rôle-là.
Oui. Oui, il y a plein de choses là-dedans. T'sais, dans le fond, il y a des bons côtés des deux choses. Une chose que je trouvais intéressante aujourd'hui, c'est que, tu sais, il y a comme un mois peut-être, où Martin Saint-Louis a mentionné le fait que, peut-être, que le fait que Kirby Dach n'est pas obligé de prendre les mises en jeu quand il joue avec Suzuki, que ça l'aide à juste enlever ce fardeau-là. Tu sais, que de lui laisser jouer librement, comme il avait mentionné. Et c'est une théorie que nous aussi, on avait abordée sur le podcast. Aujourd'hui, j'ai pu demander à Kirby Dach si c'est un facteur pour lui. Puis lui, honnêtement, à chaque fois que tu mentionnes les mises en jeu avec Kirby Dach, il devient un peu...
C'est ça.
Défensif, là, ouais. C'est pas vraiment un sujet qu'il adore parler. Mais alors, lui a dit non. Lui a dit, tu sais, moi, je joue au hockey. Peu importe que je joue au centre, que je joue à l'aile, qu'il faut prendre des mises en jeu, qu'il faut pas, ça change rien pour moi. Moi, je vais jouer au hockey, puis that's it. Ce qui est bien correct. Il demandait la même question à Martin. Et Martin a dit que, et ça, c'est l'aspect intéressant que je trouve, c'est que oui, peut-être ça s'appliquait à l'époque où je l'ai dit, tu sais, parce que il avait déjà commencé la saison, il prenait des mises en jeu de temps en temps, il les perdait souvent. Alors, à l'époque où il l'a mis à l'aile, où il n'avait plus besoin de faire ça, peut-être c'est un facteur à ce moment-là. Mais il trouve que maintenant, qu'il a bâti un peu de confiance, qu'il a bâti un peu plus son identité au sein de l'équipe, que ça serait moins un facteur maintenant qu'avant. Et il a dit qu'effectivement, que les mises en jeu, ça serait pas un grand facteur dans la décision de le remettre au centre ou non. Ce que je trouve intéressant, parce que les deux choses peuvent être vraies en même temps, tu sais, que quand Martin a dit ça, il y a un mois, que c'était vrai, c'est un facteur qui a aidé Kirby Dach à oublier ça, oublier quelque chose qui était un sujet de conversation autour de lui depuis plus qu'un an. Tu sais, c'était la même chose à Chicago. Et que maintenant, c'est autre chose. Alors, et je pense que l'idée de lui faire confiance, de dire, écoute, nous, on te voit comme joueur de centre. Kirby lui-même l'a dit aujourd'hui qu'il se voit comme joueur de centre. Nick Suzuki a dit que l'organisation le voit comme joueur de centre. Et juste parce qu'il vient combler l'absence de Sean Monahan pendant quelques matchs où on ne sait même pas combien de temps Sean Monahan va être absent. Mais ça peut aider encore plus sa confiance de revenir à sa position naturelle et d'être en charge, effectivement, comme tu l'as mentionné, d'un des deux trios top 6 de l'équipe, que c'est lui qui prend charge de ça. Puis honnêtement, à 5 contre 5, c'est moins convaincant, ce trio-là, depuis un petit bout. Là. Tu sais, comme Dach lui-même, dans les 6 derniers matchs, je pense, 6, même 7, 6 matchs, il y a une passe. Alors, c'est pas comme si, tu sais, Suzuki et Caulfield produisent leur but, surtout en avantage numérique dernièrement. Mais à 5 contre 5, c'est... Je veux pas dire que ça va mal, mais c'est pas la même chose que ça l'était avant, quand Dach a été mis sur ce trio-là. Effectivement,
en fait, il y a deux passes. Il y en a eu une à Edmonton, puis il y en a une autre à Seattle.
Ah, pardon. OK, c'est ça. Alors, mais comme j'ai mentionné tantôt, tu sais, comme chaque entraîneur que tu demandes... La première chose qu'il mentionne, c'est ce trio-là. Alors, ça aussi, c'est un ajustement où il faut affronter une équipe que partie de leur plan de match, c'est de t'arrêter. Alors, ça, c'est un ajustement, je pense, que les trois sont en train de vivre. Mais ça serait peut-être un bon moment de... parce que tu pourrais quand même garder Kirby Dach sur le premier jeu de puissance. C'est l'avantage numérique... T'as pas besoin de le changer nécessairement juste parce que Kirby Dach s'en va jouer au centre sur le deuxième trio. Effectivement, Sean Monahan jouait sur cette unité-là en étant le deuxième centre de l'équipe. Mais c'est peut-être le moment parfait pour dire à Kirby, OK, vas-y, on te remet au centre. On verra comment ça va. Mais de faire un petit changement sur le premier trio, je pense que le timing est pas mal bon, là.
Ouais, ben écoute, juste pour conclure à ce qui a trait aux mises en jeu, là, c'est pas une facette du jeu qu'un joueur peut solutionner en très peu de temps. C'est souvent un truc qui s'échelonne sur plusieurs années avant que finalement tu maîtrises cet art-là. Puis dans certains cas, il y a certains joueurs de centre qui n'y arrivent jamais. Mais on peut pas, le Canadien ne peut pas non plus attendre que Dach, you know, soit 50% au cercle de mise en jeu avant de le remettre au poste de centre et dire « OK, parfait, tu vas être centre de manière régulière. » Il y a d'autres aspects à cette position-là. Puis je pense que dans toutes les autres facettes du jeu, il est tout à fait capable de le faire et de montrer qu'il peut tirer son épingle du jeu. Puis je pense qu'il y a quand même eu l'élan. Il n'aurait pas pu avoir un élan plus souhaitable pour son début de carrière avec le Canadien, pour son arrivée à Montréal, que le premier, disons, là, appelons-le le premier tiers de saison qu'il y a eu là, avec Suzuki et Caulfield, ou un peu moins. Là. Mais c'est ça. Donc, et l'autre raison qui fait en sorte que le timing est bon, c'est que le Canadien aussi va disputer 4 de ses 5 prochains matchs à domicile. Donc, encore là, au niveau des confrontations, ça peut être favorable. Martin Saint-Louis peut décider donc de regarder contre qui va envoyer le trio de Doc si jamais il décide de l'utiliser au centre. Est-ce qu'il va essayer de contourner le problème des mises en jeu en l'envoyant dans le feu de l'action au lieu de lui faire commencer des présences après un coup de sifflet? Donc ça, c'est des éléments qui rentrent en ligne de compte. Mais tout ça m'apparaît quand même assez fluide, puis ça va être un défi autant pour Doc que pour tous les autres, parce que là, en l'absence de plusieurs joueurs de qualité, la seule certitude que le Canadien a pour l'instant, c'est le duo Suzuki-Caulfield. Après ça, ça devient toujours une espèce de jeu de Tetris. On essaie de trouver les bons agencements. Je pense que Christian Dvorak, qui ne doit pas sentir une grosse pression de produire offensivement, livre la marchandise dans le type de hockey qu'il joue. Mais il y a d'autres joueurs. T'sais, Dadonov, c'est très tranquille. Josh Anderson, c'est inconstant. T'as des ailiers blessés qui s'apprêtent à revenir au jeu également. Puis on va voir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir apporter. Il y a beaucoup d'incertitudes. Alors, de remettre Kirby Doc au centre, il va y avoir de l'incertitude à ses côtés également. Je pense que ça va être un bon défi de responsabilisation du joueur, de dire « OK, let's go, c'est toi qui es le go-to de ce trio-là, puis on te donne les clés du deuxième trio. » Je ne sais pas si c'est ça qui va être décidé en bout de ligne, mais honnêtement, je ne vois pas... Le fait de pouvoir remplacer Doc par un autre joueur pour compléter le trio de Suzuki, à mon sens, tu en perds moins que de demander à un gars comme Jake Evans, par exemple, d'augmenter ses tâches ou d'augmenter sa responsabilité au plan offensif avec les chances qu'il n'y arrive pas. T'sais. Alors, je pense que, somme toute, vu que dans le grand ordre des choses, le Canadien a toujours perçu que Doc serait un joueur de centre, la situation est propice.
Oui, effectivement, puis il est propice de deux façons, parce que, comme tu mentionnes, et comme tu as déjà mentionné un peu plus tôt, si tu enlèves Doc de ce premier trio-là, tu auras l'option, au moins, de mettre Juraj Slafkovský sur ce trio-là. Déjà, on a vu, quand il a été mis sur le trio de Monahan, qu'il a élevé son niveau de jeu un peu, puis là, tu sais, il y a un certain débat, disons, parmi les partisans, que si ça serait mieux pour Juraj Slafkovský d'aller au championnat du monde junior, comme fait ses compatriotes Shimon Nemets et Philippe Mecher. Le Canadien, Jeff Courtin me l'a dit à Vancouver, que si ça continue comme ça va maintenant, on ne prévoit pas l'envoyer.
Non.
Vendredi, Martin Saint-Louis a dit tout à fait la même chose, que la façon que Slafkovský joue en ce moment, on préfère qu'il continue. On préfère garder la continuité, c'est les mots qu'il a utilisés. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que la raison pour ça, c'était que dernièrement, avec plus de minutes, avec plus d'implications, avec des présences plus régulières qu'il recevait sur le quatrième trio, il trouve que Juraj Slafkovský touchait la rondelle plus souvent pendant les matchs. Tu sais, lui, l'expression, il ne l'a pas utilisée aujourd'hui, mais l'expression que Martin aime utiliser avec Juraj Slafkovský, c'est qu'il s'est rendu sur les buts. Tu sais, il got on base. Alors, ça, c'est quelque chose où, tu sais, c'est une façon de dire qu'il a connu des succès à chaque présence. Même si ce n'est pas un but, ce qui serait un coup de circuit, il a connu, il a frappé des simples ou il a eu des buts sur balle. Il a quand même...
Il s'est fait bunter quelques fois.
Ouais, c'est ça. Il accomplit quelque chose à chaque présence. Ouais. Si ça veut dire juste avoir une présence qui se passe en zone offensive, puis il était capable de protéger la rondelle le long des bandes, si ça veut dire un jeu défensif, si ça veut dire son jeu physique, peu importe, tant qu'il y a quelque chose de positif qui se passe à chaque fois qu'il est sur la glace, c'est ça ce qui importe pour Martin Saint-Louis. Puis dernièrement, il trouve que c'est le cas, puis à cause de ça, à cause de son jeu sans la rondelle, ça fait en sorte qu'il touche la rondelle plus souvent. Alors ça, c'est quelque chose que je pense que Martin Saint-Louis, depuis le début de la saison, voulait voir de Juraj Slafkovský. Alors en ce moment, il le voit. C'est un peu à cause des circonstances, à cause de toutes les blessés. Mais c'est okay. Aussi à cause du jeu de Juraj qui s'améliore de semaine en semaine. Mais Martin a aussi admis que le débat a ses mérites. T'es capable, il y a des arguments qui peuvent être faits des deux bords, que, qu'aller au championnat du monde junior l'aiderait beaucoup. Moi, ben en tout cas, moi j'ai mon opinion là-dessus, mais j'aimerais t'entendre sur la façon que toi tu vois les choses, parce que c'est vrai que cette expérience-là pour un jeune joueur de 18 ans d'aller représenter son pays à ce tournoi-là peut avoir beaucoup de bénéfices, tout comme rester à Montréal aurait ses bénéfices. Alors, c'est de quel bord que tu te penches?
Ben, écoute, Slafkovský, ça fait déjà un bon bout de temps qu'il joue contre des hommes. Même quand il était en Europe, il jouait dans une ligue senior. Donc, il n'a pas été... Je pense qu'il a perdu un peu l'habitude de jouer avec ses pairs en termes de son groupe d'âge. Et je me pose la question à savoir si lui-même ne jugerait pas ça comme étant un peu un recul de dire « Ah, ben je retourne chez les juniors. » C'est vrai que c'est un tournoi international. C'est vrai. Sauf que le tournoi U20, le mondial junior, il y a déjà participé. Il a déjà participé au U18 et il a déjà participé aux Jeux olympiques également. Et ça, c'est très rare qu'un gars participe aux Jeux olympiques avant même d'avoir été repêché par une équipe de la Ligue nationale de hockey. Donc, en termes d'expérience internationale, il a passé la gratte déjà. Alors,
c'est surtout son expérience... Pardon, mais c'est surtout son expérience internationale qui était à la base de la décision du Canadien de le repêcher au premier rang. Là. On s'entend.
Absolument. Exact. Ouais. Exact. Alors, tu sais, je pense que c'est pas tout à fait la même chose qu'un jeune joueur qui est soit dans son équipe junior ou encore dans son...
C'est pas la même chose que Shane Wright.
Mais même pas, parce que Shane Wright, écoute, ils ont eu toutes les misères du monde, puis on en a parlé plus tôt cette semaine dans l'épisode en anglais. Ils ont eu toutes les misères du monde, le Kraken de Seattle, à lui trouver du temps de jeu. S'il avait joué depuis le début de la saison comme il a joué en première période contre le Canadien, je pense que ce ne serait pas un débat. Puis peut-être qu'on verrait la situation différemment. Mais là, comme c'est là, Wright, qui jouait des miettes à chaque match, il va s'en aller au Mondial Junior. Il va avoir des touches de rondelles en veux-tu, en v'là. Puis après ça, ils prendront la décision s'il est cédé dans le Junior ou s'il va revenir avec le Kraken. Le Canadien est dans une position différente parce que non seulement Slafkovský démontre une progression, pas phénoménale de jour en jour, mais tu sais, je pense régulière. C'est satisfaisant. Je trouve qu'il y a un élan positif. Et là, on se retrouve devant une situation où si Martin Saint-Louis est soucieux du nombre de touches de rondelles qu'il va donner à Slafkovský, ben là, regarde, c'est présenté sur un plateau d'argent, là, parce qu'il a une occasion d'en donner beaucoup à son joueur. Puis tout à l'heure, je te disais que ce qui était favorable, c'est que les 4 des 5 prochains matchs du Canadien sont au Centre Bell, donc avec des confrontations où le Canadien a le dernier changement. Ben, l'argument qui était valide pour Dak est également valide si on décide de mettre Slafkovský sur le premier trio, parce que ça permet aussi de dire, si Martin Saint-Louis le souhaite, de dire ben, je peux essayer de, entre guillemets, d'isoler jusqu'à un certain point, parce que le premier trio du Canadien, tu ne pourras jamais vraiment l'isoler, mais tu peux essayer de le glisser entre les doigts de la meilleure couverture adverse. Donc, du moins contre certaines équipes qui ont juste un trio ou un centre qui est vraiment particulièrement compétent contre ça. Sauf que je pense que le cadre encore là me semble favorable à faire cet essai-là. Et si jamais ça ne fonctionne pas puis qu'on se dit, ben là, Slafkovský, il n'est pas prêt à prendre des grosses bouchées comme ça, ben ce ne sera pas la fin du monde. Je ne pense pas que c'est non plus, ce serait mettre une pression sur le jeune, dire, ah ben là, ton heure, tu sais, l'heure de vérité approche. t'as 18 ans, mais là, si ça ne marche pas avec Suzuki cette semaine, ça ne marchera jamais. Non, je pense que c'est un pas à la fois, puis c'est de faire des essais. Puis je pense que le Canadien est dans une saison où il doit toujours garder l'esprit ouvert à faire des essais. Et je pense qu'il y est allé très prudemment avec Slafkovský jusqu'à maintenant, puis j'approuve ça tout à fait. Mais je pense que l'occasion s'y prête en ce moment de dire là, on va le mettre au défi. Puis je pense que lui, il ne demande pas mieux que de s'en faire donner davantage. Puis je pense qu'il y aurait le goût, là.
Ben, une chose qui est importante à mentionner, c'est que j'ai eu plusieurs répliques. T'sais, j'avais parlé à Jeff Corton là-dessus. Hier, j'ai tweeté que Jeff Corton, ben, il a dit ce qu'il a dit. Là. Il dit que si ça continue comme ça, il irait pas. Puis il y a eu plein de répliques comme quoi il ne domine pas la Ligue nationale, il devrait aller dominer au championnat du monde junior, ça pourrait l'aider. Tout ça est parfaitement raisonnable, puis peut-être pourrait même être vrai. Mais je pense que le monde regarde, en ce moment, après 21 matchs, Slafkovský joue en moyenne 11 minutes 29 secondes par match. Ça, évidemment, c'est à la hausse, la tendance. T'sais. Il y a eu connu une couple de matchs avec plus de 14 minutes dernièrement. À Seattle, il y avait plus que 12, c'est plus dans ces eaux-là. Mais le point pour moi, c'est que c'est plus vrai. C'est plus la réalité de la Ligue nationale que le joueur de 18 ans va arriver, puis va jouer 15-16 minutes par match, il va récolter un point par deux matchs ou quelque chose comme ça. Qu'un joueur de 18 ans va contribuer immédiatement dans la Ligue nationale, c'est plus vrai que ça l'était avant. C'est, premièrement, tout le monde s'entend que pour dire que Juraj Slafkovský, c'était pas Connor Bedard. C'était pas quelqu'un qui était clairement le premier choix universel au draft. Il y avait quand même pas mal de mystères entourant ce choix-là. Et le Canadien a fait une très bonne job en gardant ça très secret jusqu'à temps que ça soit annoncé sur la scène au Centre Bell. Et alors, les attentes pour ce joueur-là devraient prendre ça en compte. Tu sais, c'est un très beau joueur, c'est un très bon espoir, mais de s'attendre que ça soit comme des autres grands joueurs, des autres QV.
Un générationnel.
Non, c'est ça. Alors, ce qui est en train de vivre avec le Canadien, même s'il ne récolte pas beaucoup de points, même s'il ne joue pas beaucoup de minutes, ce qui est en train de vivre avec le Canadien en ce moment, a une valeur. Et tout ce que tu as besoin de faire, c'est de mentionner l'idée à Juraj Slafkovský, la possibilité de jouer juste dans la Ligue américaine. Mm-hmm. Et il va te dire que, à mon avis, non. Ben, premièrement, on s'entend, il y a une grosse différence de salaire une fois que tu descends la Ligue américaine. Ça, c'est un facteur qu'il ne faut pas négliger. Mais juste en termes hockey, il est en train d'apprendre à chaque entraînement, à chaque match, même s'il joue 11 minutes. Il y a un apprentissage qui se fait avec lui, puis il y a une amélioration dans ces choses-là qui se voit. Par exemple, juste sa prise de décision sur la glace. Ça, c'est quelque chose que... ce qui est probablement l'ajustement le plus difficile pour un jeune joueur de 18 ans. Autant plus pour un jeune joueur de 18 ans qui a passé sa vie à jouer sur les surfaces de glace internationales, les plus grandes surfaces, où tu as plus de temps avec la rondelle, tu as plus de temps pour prendre des décisions, tu as plus d'espace en général. Avoir tout ça qui s'enlève tout d'un coup, puis en plus, tu joues contre les meilleurs joueurs au monde... C'est un ajustement qui est difficile. Il est en train de vivre ça. Et tu sais, quand Martin Saint-Louis dit qu'il voit une amélioration dans ces choses-là, son jeu sans la rondelle, le fait qu'il touche aux rondelles plus souvent, que quand il touche aux rondelles, c'est un résultat positif plus souvent. Ça, c'est un élan, comme tu disais, pour Kirby Dach, qui est sur un élan. Il y aurait Slafkovský qui est sur un élan aussi. S'il était sur un élan négatif en ce moment, je pense que la décision serait plus compliquée pour le Canadien en termes du fait que peut-être ça pourrait lui changer des idées d'aller au championnat du monde junior, jouer avec son pays, jouer avec ses amis et compétitionner sur cette scène-là. Il y aurait un bénéfice pour quelqu'un qui est en train d'avoir sa confiance qui est un peu ébranlée. Mais avec Slafkovský, ce n'est pas le cas. Là. Son confiance n'est pas ébranlée du tout. Puis juste être dans l'entourage de l'équipe, j'encourage du monde qui sont à Montréal et qui a des craintes quelconques que Juraj Slafkovský est en train de perdre son temps ici à cause du fait qu'il joue 11 minutes par match en moyenne. Je vous encourage d'aller à Brossard regarder un entraînement du Canadien et surtout regarder avant l'entraînement et après l'entraînement. Et le temps que Juraj Slafkovský passe sur la glace avec ses coéquipiers, avec Adam Nicklaus, avec les autres entraîneurs en train de travailler des petites choses. Ça arrive à chaque jour. Et chaque jour, c'est du développement, c'est le laboratoire de développement à chaque jour, à chaque fois qu'il est sur la glace. Alors, il y a des bénéfices de rester ici. Est-ce que ces bénéfices-là sont plus forts que les bénéfices qu'il aura en jouant au championnat du monde junior. Je suis pas certain. Mais une chose que je peux dire clairement, c'est que ce jeune gars-là est pas en train de perdre son temps à Montréal. Ça, c'est évident. Si tu le vois chaque jour, et si tu es capable de le voir aux entraînements, et si tu es capable de lui parler et voir à quel point lui-même, il sent à quel point il s'améliore à chaque jour, et à quel point ça l'excite, à quel point ça le motive de continuer à s'améliorer, l'environnement dans lequel il joue en ce moment est parfait pour lui. Alors, encore une fois, je ne dis pas que ce serait une mauvaise chose qu'il va au championnat du monde junior, mais tout ce que je dis, c'est que ce n'est pas une mauvaise chose qu'il reste à Montréal, qu'il ne va pas au championnat du monde junior.
Non, effectivement. Puis tu sais, quand les gens répondent à ton tweet en disant qu'il ne domine pas avec les Canadiens, il va aller dominer là-bas, il n'y a personne qui attend de domination à Montréal. Et puis, s'il va dominer là-bas, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va changer quoi que ce soit à son approche quand il va revenir de là-bas? Est-ce que ça va en faire miraculeusement une super vedette? Non. Je pense que si tu lui donnes... Tu sais, là, il y a une opportunité en l'absence de Monahan, de Gallagher, avec potentiellement Dak qui pourrait revenir au centre. Il y a une opportunité de clairement s'établir sur le top 9 de l'équipe et peut-être même avoir un essai plus haut que ça. Je pense que tout bien considéré, c'est en termes d'apprentissage, il y gagnerait plus, à mon sens, que, entre guillemets, d'aller faire son frais au Mondial Junior, aller récolter beaucoup de points, puis être plongé dans un environnement où peut-être qu'il serait le meilleur, peut-être pas, remarque, là, peut-être qu'il y aurait d'autres joueurs qui s'illustreraient plus que lui, peut-être qu'il dominerait, mais dans la perspective où on parle du Canadien de Montréal, on parle de son développement, puis de quelle manière lui peut progresser pour aider cette équipe-là. Je suis pas certain que la trajectoire qu'il a prise depuis le début de la saison fait en sorte qu'aller briller au Mondial Junior serait un gain net pour lui et pour l'équipe après ça.
Puis, il y a aussi le fait que, juste en termes de mentalement, en termes d'émotionnellement, un gars comme Juraj Slafkovský, puis dans le fond, Shane Wright est dans la même position. Il y a plusieurs joueurs qui sont délinquants. Tu sais, tous les joueurs qui sont prêtés à l'équipe nationale junior de leur pays, après avoir joué dans la Ligue nationale, ils ont tout ce fardeau-là que si tu vas au championnat du monde junior, puis tu domines, tout le monde se dit, t'es supposé dominer, là. T'es dans la Ligue nationale, tu devrais aller là dominer. Mais si tu domines pas, le tournoi va mal pour toi, là, ouais. T'as vraiment rien à gagner. En termes de cette optique-là, si tu domines, tout le monde dit « Ah, bof, tu sais, whatever. Tu devrais dominer, j'espère que tu as dominé. Tu ferais quoi d'autre? » Mais si tu ne le fais pas, là, tout d'un coup, « Ah, OK, est-ce que c'est une déception? Est-ce qu'il va vraiment être le joueur compensé? » Blablabla, tu sais, c'est comme... Puis pour un petit tournoi, tu te rappelles Cole Caulfield au championnat du monde junior? Le monde demandait les mêmes questions de lui, là. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas capable de marquer au championnat du monde junior. Qu'est-ce qu'il va faire dans la Ligue nationale? Ce gars-là, lui, a été capable de... Puis, effectivement, avec son début de saison l'année passée, les mêmes questions étaient là. Alors, ça, juste à cause du fait que tu vas au championnat du monde junior, veut pas dire que ça va être une expérience positive, là. Parce que si ça va mal, là, puis écoute, en ce moment, ça va pas mal à Montréal pour Slafkovský. Ça va très bien, tu sais. Alors, si tu vas là, puis tout d'un coup, ça va mal... Qu'est-ce que ça va faire à sa confiance? Qu'est-ce que ça va faire à tout ce qu'il a bâti jusqu'à date avec le Canadien? Tout ça, tu vas recommencer quasiment à zéro, là. Alors, il y a cet aspect-là aussi que je pense que beaucoup de personnes, tu sais, prend pour acquis qu'un joueur de son talent, puis de ses habiletés, son gabarit, il devrait en principe aller là et dominer le tournoi. Mais très rarement, tu penses aux conséquences de qu'est-ce qui arrive, parce que c'est pas un sport individuel. Tu sais, il s'en va avec une équipe. Si la Slovaquie se fait ramasser à chaque match, puis lui, il produit pas grand-chose, qu'est-ce que ça fait pour lui? Alors, il y a un risque là-dedans aussi que le Canadien doit accepter ou doit au moins...
Considérer.
Considérer, oui. Que c'est un facteur dans la décision, étant donné que sa confiance est en train de se bâtir et il est en flèche comme montant en ce moment... prendre le risque que ça commence à baisser à un tournoi international junior, c'est peut-être un risque que les autres ils voient pas ou peut-être qu'ils pensent que ça ne vaut pas la peine de prendre ces risques-là quand ça va très bien en ce moment ici à Montréal.
Okay. Écoute, avant qu'on passe aux questions de nos auditeurs, j'aimerais quand même te boucler la boucle, puisqu'il a été question aujourd'hui jusqu'à maintenant de Doc et de Slavkovski. Dans l'éventualité où Doc serait muté au centre du deuxième trio pour les prochains matchs, et que ce n'était pas Slavkovski qui se retrouvait aux côtés de Suzuki et Caulfield, qui tu verrais dans ce rôle-là?
Ben, on retourne à la question éternelle au début de la saison. Avant que Doc soit muté sur ce trio-là, tu sais, on se demandait c'est qui complète mieux ce trio-là. Mm-hmm. C'est difficile à dire. Honnêtement, là, et je pense que le monde va rire de moi, et c'est correct, vous avez le droit, vous le faites à chaque jour, quasiment. Mais moi, je mettrais Armia, là.
Ah oui! OK.
Ouais. Moi, je trouve
un peu, OK, je comprends.
Ben, je trouve que, tu sais, c'est un gars qui protège bien la rondelle, le long des bandes, c'est un gars qui a un tir rapide. Mm-hmm. Il est capable de penser la game pas mal bien. Je serais intéressé à voir qu'est-ce qu'il peut faire avec ces deux-là. Là, je pense que tout le monde va dire, bon, ben, tu sais, qu'est-ce que tu fais avec un gars qui a un point cette saison, tu ne mettrais pas avec... C'est vrai, ça serait un risque, mais je trouve que ça serait peut-être une combinaison intéressante, puis ça permettrait de garder les autres joueurs plus offensifs, parce que, tu sais, comme on a vu dans le dernier match, si Doc aurait coûté 2 points... en 6 matchs, tu sais, on s'entend la passe à Seattle, c'était une deuxième passe sur le but de Kovacevic, là. C'était pas,
ouais.
C'était pas une grande
au
pièce
de jeu
offensif, ouais, c'est ça. Ouais. Alors, tu sais, c'est comme, c'est, puis ça n'a pas empêché Suzuki et Caulfield de produire pendant ce temps-là. Alors, je sais pas, j'essaierai parce que, tu sais, on sait pas si Drouin va jouer samedi, on sait pas si Hoffman va jouer samedi. Les deux seraient peut-être des options, mais les deux ont déjà eu des chances avec ces deux gars-là. Armia, on l'a pas vu encore. Je serais intéressé de le voir, au moins. Alors, moi, je l'essayerai. Je dis pas que ça fonctionnerait nécessairement, mais je trouve que ça pourrait fonctionner.
Il y a deux gars qu'on n'a pas vu, dans le fond. C'est, à part Slavkovski, c'est Armia puis Dadonov. Sinon, on a vu Monahan, on a vu brièvement Gallagher, je pense, la saison dernière, mais quoique même pas beaucoup. Anderson, on sait que ça marche pas. Malheureusement, ça aurait été le fun que ça fonctionne, mais ça n'a pas fonctionné. Hoffman, c'est mitigé. Pour l'instant, c'est the next best thing. Pitlick, ça a été une catastrophe en fin de saison dernière. Fait que, tu sais, il n'y a pas énormément d'options. Sais-tu quoi? J'haïs pas ton idée de Armia. Ça me rappelle un peu les fois où Arturi Lekkonen avait été demandé comme frappeur remplaçant, pour reprendre une expression de baseball, sur le trio de Philippe Dano à l'époque. Tu sais, de temps à autre, il allait.
Et tout ce qu'il a fait, c'est marquer le but gagnant pour envoyer le Canadien à la finale de la Coupe Stanley, jouant sur ce trio-là, en tout cas.
C'est ça. Parce que, tu sais, une fois que si la rondelle. Parce que, à la minute, l'enjeu avec le trio de Suzuki, c'est que quand l'adversaire a la rondelle, et qui sont coincés dans leur zone, des fois, ça peut être long pour eux de reprendre possession du disque et ils peuvent être coincés dans leur zone. Armia peut aider à briser le mouvement circulaire de l'adversaire en zone du Canadien. Il se débrouille très bien à ce niveau-là. Puis une fois que Suzuki et Caulfield reprennent possession du disque, leur jeu de transition est efficace, puis ils vont s'installer ailleurs. Et Armia est le genre de gars qui... Selon ce que... Ça, c'est un des éléments, un des concepts que Martin Saint-Louis aime apporter. C'est l'idée de prolonger le temps passé en zone offensive. Hein, le sustained zone time, qu'il dit en anglais. Puis encore là, Armia, étant donné son gabarit, ses qualités de protection du rondelle, c'est un gars qui, en termes justement de mouvement circulaire, il n'y a pas beaucoup de gars chez le Canadien qui ont ce type d'aptitude-là. Peut-être qu'il pourrait aider justement ces deux gars-là, autant en défense qu'une fois rendu en zone offensive. Donc, c'est pas bête. Puis, j'ai lancé au passage le nom de Dadonov, qui, lui, ça va un peu nulle part son affaire cette année. Mais je me dis en même temps... Juste dans une stricte mentalité de on essaie de bonifier la valeur des joueurs. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien fait cette année pour la bonifier, mais est-ce que de se retrouver avec ces deux gars-là pourrait aider à lui donner une espèce d'élan qui pourrait aider à mousser sa valeur un petit peu sur le marché des échanges? Peut-être. Ne sait-on jamais, mais Armia, Armia spontanément a probablement l'air de la meilleure option.
Mais en fait, ce que tu viens de mentionner concernant Dadonov, c'est pas fou non plus. Là. C'est comme si tu veux avoir quelque chose pour ce gars-là à la date limite des transactions, c'est la meilleure façon de le faire. Ce serait de le faire jouer avec ces deux gars-là. Ouais. En fait, la meilleure façon de le faire, ce serait de le faire jouer sur la première unité de la jeu de puissance, ce qu'on n'a pas vu encore, à part quelques flashs. Là. À part de ça, ce que Martin Saint-Louis devrait honnêtement considérer à un moment donné, s'il veut échanger ce gars-là, de le faire jouer avec Suzuki et Caulfield, ça pourrait peut-être l'aider à débloquer un peu. Puis je trouve que, en fait, honnêtement, depuis quelques matchs, là, je trouve qu'il joue quand même du bon hockey. Là. C'est juste que ouais. Les points ne sont pas là, mais peut-être ça pourrait l'aider. Puis encore une fois, il y a beaucoup des mêmes aptitudes en termes de QI hockey, là, de hockey sense qu'Armia. Peut-être que ça pourrait fonctionner aussi, mais honnêtement, ça serait temps de... Parce qu'il y avait trois joueurs que les Canadiens espéraient mousser leur valeur, et il y en a juste un qui l'a fait. C'est Monahan, à date. Alors, avoir un Dadonov et un Drouin qui commencent à produire un peu plus, puis devenir plus attrayant aux autres équipes d'ici le mois de mars, là, ce serait une bonne affaire pour l'organisation et pour l'avenir en général.
Ouais. OK, alors passons aux questions de nos auditeurs. On en a deux aujourd'hui, on en a choisi deux, on en a eu plus que deux, mais on en a choisi deux. Alors, sans plus tarder, on va écouter Mathieu.
Oui, bonjour, j'aurais une question. Mon nom est Mathieu, bravo pour le podcast, j'adore écouter. Ma question est la suivante, avec la saison que connaît le Canadien présentement, et en pensant que Arthurie Lehkonen, que je crois 27 ans, et dans la fleur de l'âge, a signé un contrat pour une somme quand même assez modique pour le nombre de points par match qu'il accumule cette année. Est-ce que on croit encore que c'est un bon échange, étant donné que la reconstruction pourrait être plus rapide que prévu, que Justin Barron ne semble pas se développer au rythme qu'on l'espérait, bien qu'il est encore très tôt, je l'admets. Donc, c'est un peu ma question. Merci beaucoup encore, et puis bonne continuation.
Bon, merci Mathieu. Puis effectivement, c'est une bonne question, dans le sens où oui, Lehkonen va très bien avec l'Avalanche du Colorado. Ceci étant dit, ça ne me surprend pas du tout qu'Arthur Lehkonen va bien avec l'Avalanche du Colorado. Et que l'autre évidence là-dedans, c'est que le Canadien n'est pas l'Avalanche du Colorado. Alors, Arthur Lehkonen, c'est un joueur qui est complémentaire. C'est un joueur qui joue bien avec des bons joueurs, mais c'est pas quelqu'un qui va driver son propre tir. Tu sais? Alors, c'est vrai que, avant de se blesser dernièrement, il a eu 18 points en 22 matchs. Ça va bien pour lui. Il a des bons compagnons de trio. Il est dans un système qui est offensif quand même. Puis, il est dans un environnement où il peut produire comme ça. Est-ce qu'il produirait au même rythme avec le Canadien? J'en doute. Honnêtement, là, c'est, ouais. Je peux pas croire que... Tu sais, mais j'ai toujours trouvé qu'Arthur Lehkonen, même s'il produit pas de points, c'est un joueur qui a une valeur sur une équipe. Mais c'est un joueur qui a tellement plus de valeur sur une bonne équipe qu'il a sur une mauvaise équipe. Parce qu'il permet aux joueurs autour de lui de faire autre chose que les choses que lui, il fait. Tu sais, si tu joues avec un Nathan MacKinnon, par exemple, tu libères Nathan MacKinnon de patiner avec la rondelle, de peut-être partir un peu plus tôt du zone défensive pour aller créer de l'offensive. Il y a des petites choses que avoir Lehkonen sur ton trio te permet de faire que tu pourrais pas faire autrement. Alors, je trouve, malgré la production d'Arthur Lehkonen, il est quatrième sur l'Avalanche en ce moment en termes de points, je trouve que l'échange était une très bonne affaire. Comme tu mentionnes, le livre sur Justin Barron n'est pas écrit encore. Oui, il n'a pas fait l'équipe dans le camp d'entraînement. Il connaît un mauvais camp d'entraînement. Je pense que l'état-major s'attendait qu'il soit sur l'équipe en sortant du camp d'entraînement. Mais il y a beaucoup d'aptitudes, il y a beaucoup de potentiel, puis il y a une forte chance qu'on va le voir à Montréal à un moment donné cette saison. Puis le choix de deuxième ronde qu'ils ont reçu, ils en avaient besoin parce que dans le fond, ils avaient échangé leur propre choix de deuxième ronde l'année prochaine. Alors là, alors moi, je trouve que l'échange est toujours une bonne chose et ça me surprend zéro qu'Arthur Lehkonen est en train d'aider l'Avalanche du Colorado puis que lui-même connaît un de ses meilleurs débuts de saison de sa carrière.
Ouais. Là, pour l'instant, il est sur la liste des blessés, sur le protocole des commotions cérébrales, puis il devrait revenir au jeu bientôt. Ce ne sera pas le cas ce soir, mais ça devrait se passer prochainement. Écoute, tu disais, je sais pas s'il y aurait les mêmes chiffres s'il était à Montréal. Mm-hmm. C'est clair qu'il les aurait pas. C'est évident. Ouais, c'est il avait plafonné offensivement à Montréal. C'est là où je suis tellement content pour lui qu'il a été en mesure de se donner une deuxième vie, parce que c'est un gars, quand tu regardes son historique contractuel avec le Canadien, il s'est jamais engagé à long terme avec l'équipe parce qu'il a continuellement misé sur lui-même en se disant, à un moment donné, toutes les chances que j'ai, ça va finir par débloquer, puis j'ai un potentiel offensif supérieur aux statistiques que je donne année après année. Il en avait la conviction, puis il a eu besoin de changer d'environnement, changer d'équipe pour pouvoir le démontrer. Alors, ça, c'est une bonne affaire. Tu mentionnes ses 18 points en 22 matchs. Moi, ce qui me frappe particulièrement, c'est qu'en plus, au sein de cette organisation-là, il joue 21 minutes par match en moyenne. C'est fascinant. Il est allé chercher un contrat aussi, c'est vrai, 5 ans, 4,5 millions. Un contrat que le Canadien n'était pas en mesure de lui donner. La structure salariale du Canadien faisait en sorte qu'il fallait qu'il coupe à quelque part dans leur classe moyenne, que les joueurs de ce bracket-là, les joueurs de troisième trio, t'sais, rappelons-nous, là, il y avait déjà Paul Byron qui était sous contrat, il y avait Yoel Armia qui venait de signer une nouvelle entente. Si le Canadien avait décidé de s'engager à long terme avec Lehkonen, le retenir pour plusieurs années, ça aurait coûté de l'argent. Et comme on vient de le dire, il n'était pas dans un environnement où offensivement, il aurait pu vraiment en donner pour son argent à l'équipe. Mm-hmm. Justin Barron, il ne faut pas oublier, là, il a 21 ans. Il vient d'avoir 21 ans. Il a eu 21 ans le 15 novembre dernier, donc c'est tout frais, là. C'est encore un très jeune défenseur. Puis je pense qu'on l'avait projeté comme étant, avant le début du camp d'entraînement, comme étant un défenseur régulier à Montréal pour deux raisons. La première, parce qu'il avait joué des matchs l'année dernière, en fin d'année, et parce que c'est un droitier. Et en fin de compte, le Canadien a décidé de dire on va prendre un de nos gauchers puis on va le faire jouer à droite, plutôt que de prendre un gars qu'on juge qui n'est pas encore prêt pour jouer de manière régulière dans les lignes nationales. Et c'est pas comme si Barron avait 25 ans non plus. Il a énormément de temps devant lui pour se développer. Il y avait des choses défensives particulièrement que je pense que le Canadien voulait qu'il améliore, entre autres au niveau de la gestion de l'écart avec l'opposant qui s'en vient vers lui, le fameux gap auquel que les défenseurs doivent mesurer à chaque fois que l'adversaire essaie d'entrer en zone, son habileté à fermer les jeux rapidement. C'est un très bon patineur. À quelque part, moi, il m'apparaît comme un genre de... Je serais pas surpris que dans quelques années, il ressemble un petit peu à Mike Matheson comme style de joueur. Il a quand même un gabarit très intéressant. Il y a peut-être un petit peu de robustesse qui s'intègre là-dedans aussi à son jeu. Il y a beaucoup de choses à aimer de ce gars-là.
Un bon coup de patin.
Très bon coup de patin. Mais je pense qu'il faut simplement lui laisser le temps de se développer à son propre rythme. Parce que Mathieu, tu dis, la reconstruction va plus vite que prévu. Oui, à cause des résultats, victoire, défaite. Mais je pense que la reconstruction, je pense pas que le Canadien va sauter des étapes juste parce qu'il gagne plus de matchs que ce qu'on aurait pu anticiper en début de saison. Parce qu'en fin de compte, la reconstruction, c'est aussi de prendre le temps d'investir avec chacun des joueurs à des rythmes qui sont différents. Puis tu ne peux pas demander au développement d'un joueur de s'aligner systématiquement à la vitesse à laquelle l'équipe va, parce que chaque joueur se développe à son propre rythme. Puis Barron n'est pas en retard, c'est pas du tout un bust, parce qu'il n'est pas en ce moment un défenseur de la Ligue nationale à temps plein. Je pense que, alors, là-dessus, je suis pas inquiet. Je pense que, de toute manière, c'est pas les résultats de Lehkonen au Colorado qui font considérer, c'est est-ce que cet échange-là, parce que Lehkonen avait une bonne valeur, ça, il n'y a personne qui va en douter. Sur le marché des échanges, il était convoité par plusieurs équipes. On va pouvoir mieux évaluer cet échange-là dans quelques années à la vue de la façon dont Barron s'est développé. Parce que Lehkonen, son rendement au Colorado, ça m'impressionne. Ça me... ça, c'est pas que ça m'impressionne pas, mais ça me
ça te surprend pas.
Ça me surprend pas, outre mesure. Merci. Oui, voilà. Des fois, je cherche mon français.
mais honnêtement, le timing du question de Mathieu est un peu ironique, dans le fond, parce que quand on parle du fait que si on met Kirby Doc au centre, qui est-ce qu'on met avec Suzuki et Caulfield? Ben, si Lakonen était là, il serait parfait.
C'est pas question, hein?
Ouais, c'est ça. Ce serait zéro. Ce serait pas de débat. On l'aurait même pas soulevé comme sujet sur le podcast, tu sais. Ce serait tellement évident que, ben oui, tu mets Lakonen là, puis tout va bien aller. Alors, par contre, honnêtement, j'ai vérifié, puis ils ont juste joué 20 minutes ensemble, ces trois-là, l'année passée. Mais ils ont quand même bien fait, là. Dans ces 20 minutes-là, tu sais, ils ont pas dominé, je dirais, mais ils ont très bien paru. Alors, c'est ça. Alors oui, peut-être, Mathieu, que si cet échange-là n'aurait pas eu lieu, on n'aurait pas à questionner c'est qui pourrait remplacer Kirby Doc sur ce trio-là. Bon, on va passer à notre deuxième message d'un de nos auditeurs. On écoute.
Allô, Marc-Antoine, allô, Harpen. Je m'appelle Philippe Labbé. En fait, aujourd'hui, ma question va être très simple. Dans le passé, on nous a souvent dit que les jeunes prospects des Canadiens seraient bons dans le futur. Puis souvent, c'était peut-être faux. Mais en fait, ma question est, qu'est-ce qui vous fait croire que pour cette fois-ci, les espoirs vont être bons à l'avenir? Merci. Salut.
Très, très intéressante question. Merci beaucoup. C'est vrai. Pourquoi croire que les espoirs qu'on nous vend aujourd'hui vont être meilleurs que ceux qu'on nous a vendus autrefois? C'est toujours une question de... Il y a toujours une question de marketing, de relations publiques là-dedans. Parce que ce soit le Canadien sous Bergevin et Trevor Timmons, ou que ce soit celui sur Gorton, Hughes, Bobrov, la pointe, chaque espoir qui est repêché, l'organisation y croit, sinon ils ne l'auraient pas fait. Alors c'est sûr qu'eux auront toujours un préjugé positif à l'égard des joueurs qu'ils amènent dans leur écurie. Et c'est vrai que par le passé, il y a des joueurs qu'on attendait qui ne sont jamais arrivés. Des fois, par exemple, c'est pas toujours l'organisation qui fait en sorte que les espoirs sont vus de plus en plus gros par les partisans. Je pense qu'il y a une chambre d'écho qui se crée dans les médias. Puis à chaque fois qu'il y a un article qui est écrit à propos d'un prospect ou que quelqu'un fait une comparaison entre le prospect et un joueur tel qu'il est devenu dans la Ligue nationale, ou qu'on se met à rêver de projeter le gars dans 3 ans, il pourrait se retrouver sur le tel trio. Tout ça, il y a comme une accumulation, la roue se met à tourner, puis à un moment donné, chaque espoir devient, tu sais, le prochain Eric Lindros, puis le prochain Niklas Lidström. Alors, je pense que c'est toujours bon un peu de tempérer les attentes, mais c'est vrai que par le passé, on disait « Attendez voir, vous allez voir que Josh Brooke va devenir un très bon défenseur de la Ligue nationale. » Il n'est même pas sur un contrat de Ligue nationale avec aucune organisation. Il est dans la filiale des Flames de Calgary. « Attendez de voir, Nikita Sherbak peut devenir un bon allié de deuxième trio. » Ça, c'est pas produit, puis etc. Ryan Poehling, à une certaine époque, le Canadien considérait la possibilité de l'échanger dans un échange impliquant Ryan O'Reilly, mais il ne voulait pas se défaire de Ryan Poehling parce que c'était donc un bon prospect. Alors, ces gars-là sont jamais arrivés à maturité. Il y a une question d'identification au repêchage comme tel, mais il y a la question du développement aussi qui a posé problème. Et c'est là où j'en viens à la différence avec les espoirs d'aujourd'hui. Il y a deux choses. Je pense que aujourd'hui, encore plus que l'identification des gars de l'équipe de recrutement, je pense que le processus de développement du Canadien, j'ai beaucoup plus confiance à la façon dont les choses se produisent désormais et à la capacité de l'organisation de pouvoir amener chacun de ces jeunes joueurs-là à maturité. Et l'autre affaire qui date même d'avant Bobrov et Lapointe, parce que c'est un peu un héritage des dernières années de Timmons, que ce soit avec Cole Caulfield, avec Caden Gourley ou d'autres, c'est que le Canadien maintenant, depuis quelques années, surtout depuis 2018, a beaucoup plus de choix au repêchage. Alors, ça a fait en sorte que dans la banque de joueurs que le Canadien a repêché, ben, il y a un tri qui s'est passé. Les gars sont passés dans le tamis. Et puis, ben, il y en a qui... ceux qui réussissent à survivre et avec lesquels, ceux dont on continue de parler, 2 ans, 3 ans après le repêchage, ben, c'est peut-être qu'on a plus de raisons d'être positif envers eux parce que 2 ans, 3 ans après leur repêchage, ils continuent d'être intéressants et d'être des gars qu'on se dit, hey, ce gars-là, il vaut la peine qu'on s'investisse puis qu'on le suive. T'sais. Jordan Harris en est un bon exemple. Il a été repêché en 2018. Il a fait ses 4 années à l'Université Northeastern. Il arrive dans la Ligue nationale puis c'est un bon joueur. Des fois, c'est un processus qui est plus long, mais il y a, en ce moment, dans la pépinière du Canadien, le niveau de talent brut que je vois là me donne à croire que cette fois-ci, s'ils sont bien développés, on peut avoir plus de bons résultats que ce qu'on avait eu, une meilleure moyenne au bâton que ce qu'il y avait eu dans les années précédentes.
Oui. Pas grand-chose à ajouter là-dessus. Non, c'est pas ça. Non, je suis entièrement d'accord avec pendant tout ce que tu as dit. La seule chose que je dirais, la seule, disons, peut-être bémol que je mettrais là-dedans, c'est qu'effectivement, la question est valide parce qu'on ne sait pas encore.
Non.
On n'a pas vu cette équipe-là en action, mais tout ce qu'on sait, c'est que le développement des joueurs, c'est comme la pierre d'assise de tout ce qu'ils essaient de faire. C'est vraiment là-dessus. C'est une des premières choses que Jeff Quartin a mentionnées en arrivant. C'est qu'il voulait améliorer le département d'analyse statistique, puis il voulait améliorer le département de développement, ce qu'il a fait dans les deux cas. Alors, juste ajouter du monde qui travaille sur le développement, ajouter un Marie-Philippe Poulin, évidemment un Adam Nicholas, qui... Tu sais, quand j'y allais parler à Owen Beck, c'est qui, comme quand Owen Beck a checké son téléphone après son premier but de la saison, c'était qui le premier texto qu'il avait sur la liste? C'était Adam Nicholas, qui a dit « Yes, sir ». C'était juste un petit message pour dire « T'sais, nice, t'as marqué un but ». Alors, il suit ses matchs, tu sais. Et ça, c'est le sentiment qu'Owen Beck, tu sais, il sait qu'il est suivi par ces gars-là. Il sait qu'Adam Nicholas est en train de regarder ses matchs sur son ordinateur à Montréal ou n'importe où il est en Amérique du Nord. Alors, il y a une certaine relation qui est bâtie avec ces jeunes-là et ça peut être d'une façon plus intime, disons, que quand c'était juste Francis Bouillon et Rob Ramage qui faisaient un peu le trajet partout. Bouillon surtout avec les défenseurs, Ramage surtout avec les attaquants. Oui, il avait une touche personnelle. Oui, il voyait les espoirs souvent, mais je pense que la suivi est fait par plus de personnes. Et il y a un contact plus étroit avec plus d'espoir qu'avant. Alors, ça, c'est un autre facteur qui fait en sorte que, tu sais, juste avoir plus de monde dans ce département-là me donne plus confiance. Parce que c'est pas juste ajouter du monde, mais c'est ajouter du monde intelligent. Tu sais, j'imagine que Vincent Lecavalier s'implique là-dedans aussi. Il y a quand même...
T'as pas mentionné Scott Pellerin, c'en est un autre.
Et Scott Pellerin, c'est un autre. Alors, l'infrastructure... est beaucoup plus fort maintenant que ça l'était auparavant.
Ouais.
Mais, honnêtement, il faut voir les résultats de ça. On ne sait pas comment ça va fonctionner avec ce monde-là, mais pour l'instant, après 1 an, ça a l'air prometteur. Mais on verra. La question est valide parce qu'on ne sait pas encore.
Non, puis on ne le sait pas parce que, encore une fois, les meilleurs espoirs du Canadien, en grande majorité, sont soit dans le junior, soit au collège, ou bien en Europe, ils ne sont pas avec le Rocket de Laval. Il y a certains espoirs qui sont, tu sais, qu'on peut considérer qu'ils pourraient devenir des joueurs de la Ligue nationale avec le Rocket de Laval, mais on est encore dans une situation où le club-école de la Ligue américaine n'est pas l'endroit premier où, tu sais, c'est le carrefour des espoirs du Canadien. Comme ça a pu, tu sais, on a déjà dans une discussion précédente, on a déjà fait un parallèle entre l'organisation du Canadien et les Sénateurs d'Ottawa, parce que les Sénateurs de Belleville étaient vraiment, il y a 2 ou 3 ans, le coin de transit de tous les meilleurs prospects de leur organisation. Là, tu regardes le Canadien, tu sais, Méchard, Beck sont dans la Ligue junior de l'Ontario, Rohrer également, Guindon également, tu sais, t'as des gars qui sont... Hudson était dans la NCAA, même chose pour Sean Farrell. Tu sais, tu as plusieurs gars qui sont pas encore dans la Ligue américaine, puis tant qu'ils n'auront pas fait le saut chez les professionnels, puis qu'ils n'auront pas vécu ce type de hockey-là, il y a il y aura toujours une part d'erreur qui va subsister. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en ce moment, il y a des gars qui nous surprennent agréablement puis qui sont des choix de quatrième, de cinquième ronde. Tu sais, Joshua Roy en cinquième ronde, c'est le fun. Sean Farrell à la toute fin de la quatrième ronde, c'est le fun. Il y a des gars comme ça qui font en sorte que tu n'as pas simplement besoin de t'accrocher à l'espoir que peut-être que le gars qui a été drafté en première ronde ou en deuxième ronde s'épanouisse, parce que au-delà de ces gars-là, tu as aussi d'autres gars un peu plus tard qui ajoutent à la pépinière de talent. Fait que je pense que la marge d'erreur du Canadien là-dedans est plus grande parce que tu as vraiment beaucoup de jeunes joueurs qui vont passer dans ce système de développement-là. Puis je pense que ça augure bien pour l'avenir.
Et honnêtement, le timing de tout ça va vraiment permettre à comme un peu répondre à une question qu'on a toujours eue pendant toute l'ère de Trevor Timmons. T'sais? Parce que lui a eu beaucoup de critiques pour son moyenne au bâton, aux tables de repêchage. Mais moi, j'ai toujours voulu savoir c'est quelle proportion le choix des joueurs et c'était quelle proportion le développement des joueurs. Alors là, on a un paquet de joueurs qui ont été repêchés par Trevor Timmons, mais qui vont avoir accès à ce département de développement-là.
Ouais.
Alors, si le moyen est meilleur que ça l'était avant, on va peut-être avoir un peu la réponse à notre question. Alors, ça va être intéressant. Absolument. Ça va être intéressant à suivre pendant les prochaines années avec la QV 2021, 2020, 2019. Tu sais, t'as un gars comme Jaden Struble qui est encore à l'université. C'est plein de gars, tu sais, même les gars qu'on a vraiment oubliés, on parle pas du tout comme Jack Smith, Blake Biondi, tu sais, du monde comme ça, Luke Tuck, tu sais, il y a des joueurs qui sont dans la pépinière en ce moment, qui ont été repêchés par Trevor Timmons et son équipe, ils vont être développés par l'équipe actuelle, puis ça, c'est, pour moi, ça va être fascinant de voir s'il y a plus de joueurs qui sortent de ces QV-là qu'on a vu dans les années précédentes.
Ouais, absolument, c'est un bon point, puis j'ai comme si tu me demandais de gager, là, c'est probablement que je te dirais que dans un an ou deux, il risque d'y avoir une espèce de backlash où tout le monde va dire « Ah, ben finalement, Trevor Timmons, c'était peut-être pas si pire que ça. Son bilan, somme toute, est pas si pire que ça. » Il risque d'y avoir un peu une petite correction historique justement à cause de la question du développement, mais parce que J'ai mentionné le nom de Roy puis Farrell, c'est des choix de Trevor Timmons. Jakob Dobesch, qui est probablement reconnu comme le meilleur espoir en ce moment chez les gardiens de but, choix de cinquième ronde en 2020, c'est encore sous lui. On verra si Raphaël Harvey-Pinard, Xavier Simoneau, un ou l'autre, peut réussir à se démarquer puis à faire sa place dans la Ligue nationale, mais c'est des choix tardifs faits sous Trevor Timmons. Fait que c'est ça, on verra ce qu'il y en a avec
le gars. Il y a deux défenseurs russes qui ont été repêchés l'année passée, en 2021. Dmitry Kostenko en troisième ronde et Daniel Sobolev en cinquième ronde. Mm-hmm. Ce sont des gars qui me semblent intéressants. T'sais, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on ne les voit pas trop souvent. Mais Sobolev était au camp, dans le fond, dernièrement. Windsor dans la Ligue de l'Ontario.
Ouais.
Mais c'est des choix comme ça qui m'intéressent. Ça m'intéresse, dans le fond. Ça m'intéresse de voir si on va être capable de voir une différence avec ce département-là. Parce qu'avant, hein, oui, il y avait Ramage, il y avait Bouillon, puis that's it, là. Il n'y avait rien d'autre dans le département de développement. Puis avant ça, c'était Trevor Timmons qui s'occupait du développement. Alors, il faisait le recrutement et le développement. Et c'était son job de faire les deux. Alors, on est très loin de ça maintenant. On est vraiment rendu à un point où il y a deux hommes qui sont en charge du recrutement. Puis il y en a comme 5-6 et une femme qui s'occupe du développement. Alors, c'est vraiment autre chose maintenant. Et c'est pour ça que, pour revenir à la question originale, je pense que c'est un peu pour ça qu'on peut se permettre d'avoir un peu plus de confiance dans ce processus-là pendant les dernières années où il n'y avait pas grand monde qui s'occupait de ça chez le Canadien.
Si vous voulez nous soumettre une question, vous pouvez le faire en appelant au 646-847-9404, 646-847-9404. Laissez-nous votre message, identifiez-vous, puis ça stimule la discussion, ça stimule le débat, puis c'est le fun, hein, pouvoir interagir avec vous. Alors, voilà ce qui conclut le Super Athlétique pour cette semaine. Harpin, merci beaucoup. Nous, on va se retrouver, on a le match du Canadien contre les contre Philippe Danault et les Kings de Los Angeles demain soir. Mais sinon, lundi prochain, il y a The Athletic Support. Donc, ben voilà.
As you've probably heard by now, we've teamed up with BetMGM this season. We'll be using BetMGM lines to make all of our picks, and we'll have special offers for our listeners each week. If you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC, and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager with BetMGM. Here's how it works. Download the BetMGM app and sign up using bonus code THEATHLETIC. Make your first deposit of at least $10, place your first bet on any game, and claim your voucher for a one-year subscription to The Athletic. See BetMGM.com for terms. U.S. promotional offers not available in D.C., Mississippi, New York, Nevada, Ontario, or Puerto Rico. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Available in the U.S. Call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369 in New York. Call 1-800-NEXT-STEP in Arizona. 1-800-327-5050 in Massachusetts. 1-800-BETS-OFF in Iowa. 1-800-270-7117 for confidential help in Michigan. 1-800-981-0023 in Puerto Rico. First bet offer for new customers only in partnership with Kansas Crossing Casino and Hotel. Don't forget, if you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager.